Ce matin sera notre dernier message tiré du livre des Proverbes. J'espère que vous avez apprécié cet été ce livre, avec son style bien différent des autres livres de la Bible. Ce format Twitter avec des tweets, des vérités condensées tout au long des Proverbes qui nous donnent des vérités d'une manière un peu punchy pour nous conseiller, pour nous donner une sagesse de vie. Bien sûr, lorsque nous lisons le livre des Proverbes, il est bon de nous rappeler, et nous le disons souvent ici à LWTM, que la Bible n'est pas principalement du bon conseil pour notre vie. La Bible est principalement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, tout ce que nous avons déjà célébré ce matin par la scène et par nos chants, que Christ nous a sauvés, que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Une orpheline qui est perdue dans la nuit, dans la forêt, c'est vrai qu'elle pourrait un conseil... Des conseils pourraient l'aider, mais encore mieux pour cette orpheline perdue dans la nuit, dans la forêt, ce serait qu'elle soit adoptée par un père qui l'aime, un peu comme Jean Valjean a fait pour Cosette dans Les Misérables, et qui lui a ensuite protégé tout au long de sa vie. Quel est notre sort en tant qu'enfant de Dieu? Et une fois que Dieu devient ce père, oui, il va nous conseiller, il va nous orienter. Et le livre des Proverbes, c'est justement, c'est un père qui parle à son fils. Et on sent que c'est un père qui aime son fils déjà, mais il veut lui donner une sagesse, un conseil pour vivre, pour apprendre à vivre. Et donc, si nous gardons cette image d'un bon père qui nous aime, là, nous sommes prêts à parler du sujet de ce matin, qui serait la correction et la discipline. Alors, nous allons lire quelques proverbes pour introduire le sujet. Tout d'abord, Proverbe 3, verset 11. Proverbe 3, verset 11. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Encore des versions chapitre 15, versets 31 et 32. « Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. » Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et un peu plus cash, chapitre 12, verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. » Alors nous apprenons ce matin que les personnes qui réussissent dans la vie, des personnes sages, sont des personnes qui aiment la correction. Ah. Alors ce matin, nous voulons apprendre à faire deux choses difficiles. Et c'est sage de savoir recevoir la correction et c'est sage de savoir donner la correction. Voilà le défi pour ce matin, les défis. Apprendre à recevoir la correction, apprendre à donner la correction. Et Proverbes va nous aider. Tout d'abord, savoir recevoir la correction. Les Proverbes... Et j'étais étonné en étudiant que souvent, c'est un appel de Salomon à son fils, c'est « écoute la correction, écoute les réprimandes, aime la correction ». Nous l'avons lu en chapitre 12, verset 1. « Celui qui aime la correction, aime la science ». Est-ce possible d'aimer la correction? Ah, j'ai essayé de penser à quel moment j'ai aimé la correction et j'ai du mal à trouver. Lorsque quelqu'un nous fait une réprimande, une reproche, automatiquement, on veut démontrer le mal fondé de cette reproche ou on se braque contre la personne ou on essaie de discréditer la personne ou on le prend mal. Et ça, c'est déjà une réprimande, mais une correction est encore plus difficile. Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit, oui, quand même, dans certains cadres, on aime la correction. Si on s'inscrit dans un sport ou dans un cours de musique avec un coach, avec un professeur. Là, on paye pour être corrigé. Et on veut ça. Donc, on est content que le coach nous dise, non, tu tiens la raquette mal, tiens plutôt la raquette comme ça. C'est beaucoup plus fort. Et on est content quand on envoie la balle avec plus de force. Ou quand on joue un morceau de musique et le professeur dit, non, là, c'est un fa, c'est un fa dièse, pas un fa. C'est plus joli quand je joue comme ça. Donc, on aime être corrigé. Et je me suis dit, peut-être déjà ce matin, on peut apprendre, les proverbes nous l'appellent en tout cas, apprendre à voir la vie entière, avec ses circonstances, avec des personnes que Dieu place dans notre vie, si on pouvait voir la vie entière comme l'école de Dieu pour nous perfectionner. Et là, on peut mieux aborder la vie. La vie est beaucoup plus riche, plus agréable, si l'on l'envisage ainsi, et si l'on devient enseignable et corrigeable pour devenir meilleur. Et là, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui revient souvent dans le livre des Proverbes, qui va nous aider à recevoir la correction. Et ce personnage, c'est le moqueur. Il y a différents personnages qui ne sont pas très sages dans les Proverbes, le paresseux, par exemple, le sot. Mais ici, souvent, un personnage qui revient dans les Proverbes, c'est le moqueur. Et le moqueur, quand on lit les versets qui parlent du moqueur, le moqueur n'est pas juste le caïd à l'école qui ricane bêtement, qui se moque des autres, comme on peut imaginer. Dans le livre des Proverbes, le moqueur est plus sophistiqué que cela. Et chaque fois qu'on rencontre le moqueur dans le livre des Proverbes, on va nous dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas être repris. Donc la première fois qu'on le rencontre, c'est en chapitre 9, verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne t'haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Ou encore un autre verset. Le moqueur, verset 15, verset 12, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Dans les Proverbes, la définition même du moqueur, c'est quelqu'un qui refuse d'être corrigé. C'est quelqu'un qui refuse d'écouter. Un moqueur ne se remet jamais en question. Il a toujours raison. Vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage? Est-ce que vous l'êtes? C'est vrai, c'est un peu pratique. Si on regarde toujours l'autre en face avec un peu de mépris, si on se croit toujours un peu meilleur que l'autre, avec cette attitude moqueur dans le cœur, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de l'écouter. On ne peut pas être corrigé par une personne qu'on méprise. Et il faut dire que cette attitude, cette démarche, ce personnage, malheureusement, on le trouve assez facilement en France, dans nos cultures occidentales. Un certain snobisme intellectuel quand on aborde les gens ou les questions sur la vie. Pour beaucoup même, c'est une manière d'écarter les questions sur Dieu, sur la foi, sur la Bible, parce que voilà, les pauvres gens qui croient ça encore aujourd'hui, moi c'est bon. Je suis éclairé, je suis illuminé. Donc attention à ne pas devenir ce moqueur des Proverbes, qui n'aime pas qu'on le reprend, qui ne peut jamais se remettre en question. Parce qu'un autre proverbe dit ceci, 29 verset 1, « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Donc à force de jamais vouloir entendre les réprimandes, de s'endurcir contre ces choses, un jour, ça peut être brisé, et c'est vrai pour la vie. Et encore, le grand danger, c'est lorsque cela nous arrive pour l'éternité, le sort éternel. On ne veut pas écouter la voix de Dieu pour s'endurcir contre lui et être brisé. Alors, pour être sage, il faut être ouvert à la correction. Il ne faut pas vivre en tant que moqueur. Alors, comment Dieu nous corrige-t-il? Les Proverbes, on dit, dans le chapitre 3, on dit que comme un père qui chérit son enfant, l'éternel, Dieu, nous corrige pour notre bien. Alors, comment on peut recevoir cette correction? Comment Dieu nous corrige-t-il? Tout d'abord, l'outil majeur de la correction de Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures. L'apôtre Paul dit que les Écritures, toute l'Écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger. Et déjà, en se mettant en face de la Bible, en prenant à cœur ce qu'elle dit, elle va nous orienter, elle va nous reprendre, elle va nous corriger. Donc, dans vos lectures personnelles, j'espère que vous voulez aborder la Bible avec la possibilité d'être corrigé. Ou bien les messages, les enseignements d'une église, ou les formations, justement, on fait des formations, et là, même ensemble, on peut vivre des moments forts, où on découvre des choses. Quelque part, lorsqu'on apprend une nouvelle chose, déjà, ça corrige un peu une ignorance ou une mauvaise conception. Et on peut vivre des moments forts entre frères et sœurs, où en découvrant ensemble la Bible, ça nous fait avancer. La Bible va corriger parfois des choses conséquentes dans notre manière de tout réfléchir. Toute notre conception de Dieu, parfois, a besoin d'être revue, corrigée par la Bible. Ou notre conception de nous-mêmes, ou du sens à la vie, le sens de la vie. La Bible peut corriger ces choses. Parfois, c'est des choses plus ciblées. Notre rapport avec l'argent, notre rapport avec le travail, comme nous avons déjà étudié dans ces proverbes. La manière de parler à son conjoint. Les priorités qu'on se donne. La Bible va constamment vouloir nous enseigner et nous corriger. Alors, c'est vrai qu'à notre époque, en France, on est content, on est fiers d'être des libres penseurs. Et on n'aime pas l'idée qu'un texte ancien puisse venir formater notre pensée et nous soumettre, et nous corriger. Et pour beaucoup, même, on se dit, c'est pas sage que je me soumette à un ancien texte qui veut me mettre dans un carcan. Il vaut mieux que je garde l'esprit ouvert. Et j'aime bien ce qu'un pasteur dit, nous l'avons mis ça dans nos cours découvertes lorsque nous apprenons à lire la Bible, à étudier la Bible, et voilà ce qu'il dit. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec certains aspects de la Bible, de la foi chrétienne, rappelez-vous que dans toute véritable relation personnelle, votre vis-à-vis doit pouvoir vous contredire. Si vous éliminez de la Bible tout ce qui offense votre sensibilité ou s'oppose à votre volonté, vous aurez essentiellement un Dieu à votre image, un produit de votre imagination. Accepter que Dieu puisse nous remettre en question par sa parole, c'est ce qui permet une relation personnelle intime. C'est ça qui est beau, vous avez vu ce qu'il dit? C'est vrai que si Dieu est notre Père céleste, rempli d'amour, ou si Jésus est notre ami fidèle et tendre, comme nous avons vu la semaine dernière, et il n'y a que la foi chrétienne qui parle du Dieu comme un Père céleste rempli d'amour, ou bien un ami fidèle et tendre. Les autres religions n'oseraient jamais parler comme ça. Dieu le roi, Dieu le juge, mais pas un Père d'amour ou un ami tendre. Et ça, c'est déjà l'aspect beau de la foi chrétienne. Mais si Dieu est un Père, si Jésus est un ami, justement, un bon Père, un bon ami, il peut vous reprendre, il peut vous corriger, sans que ça casse votre relation, même... Quelque part, vous l'appréciez quand il le fait. Et ça, c'est ça, avoir une relation avec Dieu dans sa parole. C'est être prêt, qu'il nous corrige, qu'il s'oppose à notre volonté des fois, et qu'il nous montre une meilleure voie. Donc déjà, Dieu nous corrige, il utilise sa parole pour nous corriger. Et on peut le recevoir ainsi. Après, d'autres manières que Dieu nous corrige, il peut placer des personnes dans notre vie qui vont nous conseiller, nous corriger. Je pense à des amis, je pense à des parents, je pense à des responsables d'église, je pense à des frères et sœurs de l'église. Ils peuvent être l'instrument de Dieu pour nous remettre sur une bonne voie. Bien sûr, on va recevoir une correction si on respecte la personne qui nous la donne et si on sait que cette personne nous aime. Un étranger dans la rue qui dit « Ah, ta façon de conduire est nulle », vous n'êtes pas écouté. Maintenant, peut-être un parent ou un moniteur d'auto-école qui va vous aider, qui dit, ouais, cette façon de conduire n'est pas la meilleure, il faut corriger. Là, vous allez vouloir le corriger. Donc, quand on respecte la personne et quand on sait qu'elle veut notre bien et qu'elle nous aime, on est prêt à écouter. Donc, peut-être là, chose à faire, c'est de cultiver et d'entretenir des relations qui peuvent permettre des critiques et des corrections qui ne vont pas nous casser. Ce qu'on a vu, on a vu justement l'intérêt des amitiés profondes et solides. Avec mes collègues pasteurs, nous faisons partie d'un groupe de prédicateurs qui se réunit et on se critique, on critique nos messages. Ce message risque d'être critiqué mardi matin par mes amis collègues. Mais je sais qu'ils m'aiment et on avance ensemble, je sais qu'ils vous aiment. Et c'est pour ça qu'on veut notre bien. Et ce n'est pas blessant, ce n'est pas dramatique, c'est même utile pour nous tous. De vivre ces relations fraternelles. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné une église, pour que nous puissions ensemble avancer. Puis un petit conseil, si quelqu'un vous fait une critique, une correction, une réprimande, et que la forme est mauvaise, ou la motivation, ou sa motivation n'est pas bonne, là c'est difficile. Mais ça n'empêche pas de discerner un élément de vrai, un élément utile, en tout cas, de se remettre à Dieu et dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Donc, même si la critique est mal formée, soyez sage et essayez de voir ce qui peut être utile pour votre vie. Donc Dieu utilise sa parole pour nous corriger. Dieu utilise les personnes qu'il place dans notre vie. Et enfin, Dieu utilise des circonstances et des épreuves. Donc ces circonstances souvent désagréables, parfois souvent pénibles, pour nous perfectionner. Il semble que quand nous avons lu Hébreux 12 ce matin, où il encourage ces chrétiens hébreux à continuer dans la foi, à persévérer dans la foi. Il dit, n'oubliez pas que Dieu peut corriger, châtier, mais c'est une preuve de son amour. Et ces chrétiens hébreux traversaient des moments difficiles, des persécutions, des épreuves, dans cette lutte contre le péché. Et donc Dieu peut placer des circonstances dans notre vie qui font partie de sa correction, de sa discipline, de son aide. Et vous pouvez tirer beaucoup plus de bénéfices d'une situation difficile lorsque, au lieu de dire « Dieu ne m'aime plus, Dieu m'abandonne », au lieu de blâmer tous les autres « Oh, c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle », de dire « Ok, c'est difficile ». J'aimerais que ma situation change, mais finalement, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Peut-être il veut corriger mon égoïsme, peut-être il veut corriger mon impatience, peut-être il veut corriger mon indépendance vis-à-vis de lui, peut-être il veut corriger tel ou tel aspect de ma vie chrétienne, et il utilise cette circonstance difficile pour le faire. Yes, je ne sais pas si vous avez vu ce film Karate Kid. Il y a la version de ma génération et puis une nouvelle version de mes enfants, mais c'est la même idée. Et le jeune garçon, il veut apprendre le karaté. Donc il va demander à l'expert, au prof, apprends-moi le karaté, je veux battre tout le monde. Et la formation commence en disant ramasse ta veste. Toute la journée, pendant des semaines et des semaines, ramasse ta veste. Fais-le tomber, ramasse. Et déjà, il est en train de travailler son caractère, un respect envers sa mère, je crois, dans le film. Mais aussi, à force de ramasser cette veste, finalement, il est en train de prendre des gestes qui vont servir dans le karaté. Et Dieu fait ça pareil avec nous. Reste là, fais ceci. Et nous, on se dit, mais j'en ai marre, pourquoi? Mais il est en train de nous préparer, de nous rendre plus forts, de corriger quelques éléments en nous. Donc c'est sage de savoir recevoir la correction. Tout au long des proverbes, on nous invite à cette démarche humble. Il faut de l'humilité pour recevoir la correction. Mais combien cela va nous aider à avancer et grandir dans notre foi, dans notre relation avec un Père céleste qui nous aime. Après, niveau suivant, c'est savoir donner la correction. Alors, il y a un verset de la Bible qui dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il n'y a plus de bonheur, mais ça parle d'argent, pas de correction. Soyons clairs, cette attitude est tout aussi difficile de donner que de recevoir. Et il faut certainement maîtriser le premier point avant de passer à celui-ci. Et en particulier ici en France, nous devons avancer doucement. En France, nous critiquons très facilement les choses. Alors attention, l'application principale de ce message ce matin, c'est pas aller dire à tout le monde ce qu'ils font mal dans leur vie. Vouloir tout critiquer n'est pas sage, n'est pas sain. C'est une manière déjà de se blinder contre les critiques des autres et on finit le même profil du moqueur. Il y a le cœur qui s'endurcit. Donc c'est pas sage de toujours tout critiquer. Ceci dit, c'est parfois nécessaire de donner une correction. Proverbe 27, verset 5 dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Proverbe 28, 23 dit « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Et certainement cela vous est arrivé, quelqu'un a gagné votre respect parce qu'il a osé vous dire quelque chose qui était peut-être difficile à entendre, mais par la suite, vous avez vu, oui, il n'est pas en train de me flatter, ce n'est pas une amitié cachée. Il y a quelque chose de, comme nous avons vu la semaine dernière, il y a quelque chose de vrai, d'authentique. Et finalement, j'en suis reconnaissant. C'est une démarche qui nécessite beaucoup de sagesse. C'est pour ça que le proverbe en parle. Alors, j'ai lu un article cette semaine, intéressant. Il a repéré une histoire dans la Bible où une correction a été donnée. Il a trouvé un bon modèle de correction à vivre, pratiquer parmi nous. Il s'agit de Moïse et son beau-père Jéthro. Vous connaissez Moïse, celui qui a conduit le peuple hors d'Égypte, celui qui a écrit les premiers 5 livres de la Bible. Vous connaissez peut-être un peu moins bien Jéthro, c'était son beau-père, un prêtre païen. Et après la sortie d'Égypte, donc Moïse est en train de conduire tout le peuple, un peuple nombreux, et ils sont dans le désert, en voie vers le pays promis, et il retrouve son beau-père, Jéthro. Et Jéthro voit comment il fonctionne, et il voit un problème, parce que finalement, Moïse fait tout, et il gère tous les problèmes, toutes les questions. C'est comme s'il y avait un fonctionnaire pour toute l'Occitanie. Ce serait difficile dans nos démarches administratives. Eh bien, c'est comme ça qu'il fonctionnait, ce jour-là, en tout cas. Et Jéthro dit, c'est pas ça. Donc, il y a un verset 17 de toute l'histoire, c'est en Exode, chapitre 18, verset 13 à 23, on va pas tout lire. Mais il y a un verset 17, où Jéthro dit à Moïse, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Voilà la correction, voilà la réprimande. « Ce que tu ne fais n'est pas bien. » Mais, si vous regardez l'histoire, cette correction est entourée, englobée d'autres choses qui fait que la correction passe bien. Tout d'abord, la veille, quand ils se sont rencontrés, il dit en verset 9, Exode 18, que Jéthro s'est réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait pour le peuple. Donc déjà, il y a une reconnaissance pour le bien que l'Éternel a fait à travers Moïse et pour Moïse et le peuple. Ensuite, quand il voit ce qui se passe, il pose une question. Verset 14, une question pour comprendre. Il dit, Moïse, pourquoi tu fais comme cela? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais comme ça? Après, effectivement, il y a la reproche, ce que tu fais n'est pas bien. Et après, il va donner des conseils constructifs, verset 19. Tiens, Moïse, tu devrais mettre en place d'autres responsables pour t'alléger la charge. Et c'est ce qu'ils ont fait, et les choses sont allées beaucoup mieux. Donc vous voyez, une correction peut être très utile. Ce que je trouve intéressant ici, c'est Moïse, il est le grand homme de Dieu. Il reçoit les révélations directes de Dieu. Il est la porte-parole de Dieu. Mais il a besoin d'une correction, il a besoin d'un conseil qui va venir de la part d'un prêtre païen, son beau-père, des fois, le beau-père. Mais c'était utile. Mais dans cette correction, il y avait reconnaissance pour tout le bien déjà accompli. Il y avait une question respectueuse pour comprendre comment ça se passe, pour orienter la discussion. Et il y avait un conseil constructif pour aller vers une solution. Ça c'est un bon exemple d'une correction. Et juste pour dire, plus tard, d'autres ont voulu critiquer Moïse et sa façon de conduire, mais c'était plus pour des raisons de jalousie, et Dieu les a punis sévèrement. Donc, encore dans tout ce domaine, il va falloir examiner nos cœurs et avancer avec l'aide de Dieu. Donc, je vous ai donné un exemple de la Bible, Moïse et Jéthro, pour savoir donner la correction. Maintenant, le rôle qui va nécessiter le plus souvent de dispenser la discipline et les corrections, c'est celui des parents. Et donc, j'aimerais accorder un temps maintenant pour les parents, parce que dans les proverbes, souvent, c'est eux qui vont devoir souvent dispenser la correction et la discipline. Quelqu'un a remarqué que la plus grande responsabilité de la vie a été confiée à des amateurs et à des néophytes. Celui d'éduquer des enfants, de corriger des enfants, il faut reconnaître que voilà, on souvent ne maîtrise peu ou pas ou rien du tout. On est souvent dépassé par les événements parce que chaque fois, chaque situation est différente et chaque situation est nouvelle. Avant d'être parent, on n'a pas été parent et puis chaque enfant c'est un nouvel enfant, un enfant différent. Donc moi, comme vous, des fois, on ne sait pas faire. Souvent dépassé par les événements. Heureusement, les proverbes nous aident et on parle beaucoup de la discipline et la correction et la manière d'être parent. Alors, je sais que tous ici ne sont pas des parents, mais tous ici, nous avons donné du fil à retordre à des parents un jour. Et donc, on peut apprécier ce rôle, prendre compassion pour les parents qui doivent avancer avec sagesse. Mais je dirais, il y a deux grands apports de la Bible pour nous aider en tant que parents, notamment dans ce domaine de la correction. Le premier apport de la Bible, c'est de nous dire que notre modèle, c'est Dieu le Père, un Père rempli d'amour. Et c'est ce que nous avons lu en Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un Père châtie l'enfant qu'il chérit. Donc, des parents ici-bas, on regarde à notre modèle qui est le Père Céleste, Dieu le Père. Et ça, c'est déjà très fort. Parce qu'on découvre que la vraie discipline, comme ça ressort dans ce verset, la vraie discipline est une expression d'amour, pas de colère. La vraie discipline est une expression d'amour. Dieu n'est pas en colère avec ses enfants. Tous les chants ce matin nous l'ont rappelé. Dieu aime ses enfants. C'est la grande vérité de l'évangile même. Le châtiment pénal, le jugement, cette colère divine est tombée sur Jésus au lieu de tomber sur nous, de sorte que Dieu peut maintenant nous adopter et faire de nous ses enfants. Et désormais, Dieu n'a que d'amour en réserve pour ses enfants. Que d'amour. Alors tout ce qui est, et ça va nous orienter aussi, nous encourager dans notre rôle de parent. Tout ce qui est abus physique, tout ce qui est explosion de colère, tout ce qui est cris et gestes violents n'ont pas lieu d'être. Et quand les lois françaises veulent interdire le fessé, je préfère qu'ils interdisent l'avortement, que je trouve fait plus mal à l'enfant que le fessé. Mais quand les lois françaises veulent interdire le fessé, je peux admettre que dans 95% des cas, la Bible serait d'accord. Parce que beaucoup ne peuvent même pas envisager, ils n'ont jamais vu ou connu la correction ou la discipline autrement qu'une expression de colère ou de vengeance, de violence. Mais en tant que chrétiens, nous avons un autre modèle, nous avons une autre vérité, nous voyons en Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu chrétien, nous voyons que l'amour n'exclut pas la correction, comme nous pouvons voir dans une bonne famille. D'où un proverbe comme celui-ci, 13:24. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. Donc, la discipline peut être une expression d'amour. Et le deuxième apport de la Bible, c'est qu'elle est réaliste sur le cœur de l'homme et le cœur de l'enfant. Les méthodes d'éducation modernes présument la bonté innée de l'enfant, et c'est là où elles font fausse route. Proverbe 22:15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la discipline l'éloignera de lui. » Ou encore chapitre 29, verset 15, « Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc la Bible nous rappelle que le Dieu d'amour, qui est notre modèle, mais aussi le péché dans le cœur de l'homme, qui nous pousse à savoir qu'on va devoir corriger et discipliner. Et ces deux vérités vont garder un équilibre sage. Certaines époques et certaines cultures, et même certaines familles, aujourd'hui, sont trop strictes. Oui, parce qu'ils oublient l'amour qui doit régner. Ils oublient le modèle du Dieu, un Père, un bon Père céleste. Et ils oublient de regarder à lui, de s'inspirer de lui. Et donc, ça devient trop triste et trop dur, et violent parfois. D'autres époques, d'autres cultures, d'autres familles sont trop laissées-faire, trop laxistes, parce qu'ils oublient la réalité du péché. Et donc, cette vérité peut nous aider en tant que parents. Et si vous gardez ces deux choses en tête, déjà, vous avez une longueur d'avance, vous avez de quoi avancer avec la sagesse que Dieu vous donne dans bien des situations. Maintenant, j'aimerais vous donner peut-être quelques conseils pratiques. Je suis en train de découvrir ces choses. J'ai des enfants en bas âge, je commence à avoir des enfants en non-bas âge, mais voilà, je ne suis pas l'expert non plus. Mais de ce que j'ai pu voir et vivre et des bons modèles dans ma vie, voilà quelques petits conseils pratiques si vous voulez retenir quelque chose en tant que parent, dans la correction des enfants. Tout d'abord, un conseil, c'est minimiser les interdictions pour lesquelles vous allez vous battre. Donc, minimiser les interdictions. Je rappelle que dans le jardin d'Éden, Dieu avait un non et tout le reste était oui. Un non et tout le reste était oui. Dieu est pour les choses, pas contre les choses. Mais ce non était important et non négociable et avec un châtiment conséquent. Alors, ça peut nous aider. J'encourage les parents à corriger surtout la désobéissance, la rébellion, par exemple, le manque de respect envers maman, par exemple. Ça, c'est des choses à veiller, à corriger. Plutôt que la maladresse, ou essayer de mettre un plein d'interdictions en place. Supposons que la petite Agathe fait tomber sa cuillère. Vous lui dites de la ramasser, et elle dit non. À ce moment, ne vous inquiétez pas de la cuillère. Ne faites pas des nouvelles règles et interdit de faire tomber sa cuillère. Ne vous inquiétez pas de la cuillère. Inquiétez-vous de son attitude du cœur et corrigez jusqu'à ce que vous remportiez cette bataille. Minimisez les interdictions en mettant l'accent sur l'attitude du cœur, la rébellion, la désobéissance. Un autre conseil, ne cédez pas au chantage et aux manipulations. Les enfants savent très bien vous rendre la vie insupportable, misérable, de les avoir contrariés par une correction, une discipline. Alors, ils vont ouvrir le robinet des larmes, des pleurs, des cris, pour que vous reveniez sur votre correction. Et d'ailleurs, petits et grands savent manipuler. Les petits, c'est des cris et des crises de colère. Les grands, je t'aime plus, papa, je t'aime plus, maman. Ou toi, tu m'aimes pas. Tu es mauvais parent. Voilà. Oh. C'est dur à entendre. Et donc, on dit, bon, je ne vais pas blesser ou contrarier mon enfant. Alors, je laisse faire. Ne cédez pas au chantage, aux manipulations. La discipline va contrarier un temps, mais ils vont être reconnaissants. Le verset en hébreu dit, plus tard, ils sont reconnaissants. J'aimais bien un style de bande dessinée. C'est un enfant unique, un fils unique de la famille. Et je crois qu'il a vécu une correction, il n'a plus le droit à la télé. Alors il entre dans le salon avec un papier. Il dit, papa, selon les sondages, ta cote de popularité a beaucoup baissé cette semaine. Il va falloir faire quelque chose. Donc voilà, et c'est comme les politiciens. S'ils suivent constamment les sondages, ils ne peuvent plus. Donc ne suivez pas trop les sondages et visez un bien long terme. Et enfin, préférez des corrections utiles et dissuasives. Réalistes, utiles et dissuasives. Je me souviens, une fois, un enfant a fait quelque chose, j'ai corrigé en disant que ce sera privé de dessert. Il se trouvait que ce soir, le dessert, c'était yaourt nature et c'est exactement ce qui ne l'intéressait pas. Alors, tout le monde s'est moqué de moi. Alors, certaines disciplines... corrections vont avoir aucun effet. Évitez celle-ci. Bien sûr, c'est là où il faut un peu de sagesse en fonction de l'âge et l'enfant. C'est sûr que le bâton de la correction convient plus à des enfants de bas âge. Et après, c'est plus des paroles, des encouragements, des conseils, des réprimandes que nos enfants plus grands ont besoin. Tout ça dans l'amour et la confiance en Dieu. En tout cas, rappelez-vous ce proverbe ici, 29, 17. Corrige ton fils et il te laissera en repos. Il fera tes délices. Ceux qui ne corrigent pas leurs enfants finissent par ne plus les supporter, ne plus les apprécier. Et là, les dégâts sont bien plus grands qu'une correction peut faire. Donc, le proverbe nous encourage à donner ses corrections en comptant sur Dieu pour son aide, en regardant à lui comme modèle, tout en sachant que nous, parents, nous sommes imparfaits et nous avons besoin, nous-mêmes, d'être corrigés. Alors, est-ce que vous aimez la correction? Si vous voulez atteindre le niveau expert dans ce domaine d'aimer et recevoir la correction, je peux vous donner un test, si vous êtes arrivé. Le test, c'est savoir recevoir une correction ou donner une correction sur une éventuelle mauvaise manière de corriger les enfants. Donc, si vous êtes capable de recevoir une correction des amis qui vous disent que vous corrigez mal vos enfants, là, vous arriverez au niveau expert. Si vous savez donner une correction à des amis qui corrigent mal leurs enfants, niveau expert. Ça, c'est très, très difficile. Peut-être ça nous dépasse. Il va falloir que Dieu agisse déjà dans les cœurs. Mais là, je vous renvoie au message de dimanche dernier. Des amitiés fortes et solides peuvent permettre, des fois, de se dire les choses qu'on a besoin d'entendre. Mais on a besoin de l'aide de Dieu. Est-ce possible d'aimer la correction? Le constat que j'ai fait, c'est humainement parler. Non, ce n'est pas possible d'aimer la correction. Le propre du cœur humain, c'est d'être propre juste. C'est chercher à être propre juste. défendre, c'est se défendre, se justifier. Le moqueur, c'est une expression d'une propre justice. La manière que le moqueur fonctionne, c'est la propre justice. Parce qu'une correction, ça mine notre ego, ça dit qu'on est imparfait. Ça dit que notre propre justice n'est pas ce qu'on pense l'être. Une correction, une reproche mine si facilement notre ego, mais c'est parce que le cœur humain veut toujours se croire propre juste. Et c'est là où l'Évangile peut nous aider. L'Évangile, ce message de la croix que nous célébrons ce matin, peut soigner cette attitude en découvrant, lorsque nous découvrons que Jésus, il est venu et il est devenu notre justice, il est devenu notre perfection, il a été parfait à notre place, il a été puni à notre place. Et cette vérité est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça change notre manière d'aborder la vie et de recevoir peut-être des corrections, des réprimandes dont nous avons besoin. Parce que lorsque vous savez que Dieu vous aime, lorsque vous savez que Dieu vous trouve impeccable, irréprochable, à travers Christ, eh bien là, les corrections et les critiques ne vont pas vous miner, ils ne vont pas vous abattre, ils ne vont pas abîmer votre ego. Elles vont plutôt vous aider et vous pouvez en être reconnaissant. À partir de là, vous pouvez conseiller d'autres sans les prendre de haut, sans devenir ce moqueur, parce que vous savez que vous êtes tout aussi pécheur qu'eux, tout aussi imparfait, mais aimé en Christ. Et cet amour de Christ pour nous veut nous faire progresser, nous transformer et nous changer en utilisant les relations d'Église et la Bible et toutes ces choses dont nous avons parlé ce matin. Et c'est pour ça que l'Évangile, le message de la croix, nous permet enfin d'aimer la correction, parce que ça ne nous détruit pas, ça n'enlève pas notre propre justice, nous n'avons pas. C'est Christ qui est notre justice. Et c'est ça qui nous aide à être des parents qui sont prêts à recevoir une correction, prêts à donner des corrections quand il faut, dans l'humilité, dans l'amour. Alors que Dieu nous accorde cette sagesse d'être enseignable, d'être corrigeable et d'avancer avec lui. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions encore de la manière que tu as su nous corriger. Et c'était avec douceur, avec amour. Tu nous as envoyé Jésus. Et nous avons compris que nous-mêmes, nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs, nous sommes pas à la hauteur. Mais Jésus l'a été pour nous et il nous a touchés, il nous a convaincus que nos efforts de nous sauver, de nous justifier ne marchent pas. Et ce qu'il a fait pour nous, sa mort et sa résurrection, nous ont convaincus, nous ont touchés, nous ont interpellés. Je te prie encore ce matin, que ta parole, ta voix puisse corriger les erreurs à laquelle nous sommes attachés. Peut-être que tu ne nous aimes pas, ou que Christ n'est pas important, ou qu'il n'est pas vivant et vrai et ressuscité. Corrige ces erreurs. Nous te prions pour notre manière de vivre en famille, en tant qu'enfant, en tant que parent. Autre Seigneur, des fois nous avons besoin de ton aide, de tes corrections pour mieux faire. Donne-nous l'humilité de les recevoir. Merci de nous faire grandir, nous faire avancer. Merci pour cette Église, les amitiés que tu nous donnes ici pour vivre ces choses dans la paix et dans l'amour. Accompagne-nous tout au long de cette semaine pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.